C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Dans le monde occidental, il y a tout un pan de l'histoire, l'histoire avec un grand I, qu'il est fondamentalement impossible d'ignorer. En effet, des siècles durant, l'histoire, sa narration, les faits historiques eux-mêmes étaient principalement dictés par l'Église, et parmi les outils qui permettent d'écrire l'histoire en direct, à l'époque, il y a les saints. Intéressons-nous aujourd'hui à un saint tout particulier, Sigismond, roi des Burgondes, au VIe siècle après J.C., connaît une histoire bien rocambolesque quand sa femme lui demande de tuer son propre fils. C'est le début d'une descente aux enfers pour le roi qui s'isole alors dans un monastère. Il sera ensuite battu, décapité et jeté dans un puits pas très loin d'Orléans, un puits qui, selon la légende, serait ensuite devenu magique. Alors pour étudier l'histoire de Saint Sigismond, les meilleurs historiens de France et de Navarre. Bonjour Alexandre Bollin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Benoît Laverbe.
Bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors commençons l'émission par le début. Peut-on rappeler comment débute la vie de Sigismond ?
Alors, Sigismond né en Bavière. Dans une toute petite ville, Emelin. C'est le fils de Soras, qui était roi avant lui, et donc Sigismond naît prince en Allemagne. Voilà, une vie d'un petit roi de Bavière.
Qui hérite, hein, voilà. Ouais, il est roi parce que son père est roi, parce que son grand-père était roi.
Et le grand-père avant lui.
Grand-père avant lui, voilà.
Voilà, donc un roi tout ce qui est de plus standard. Ce qu'il faut noter aussi pour les auditeurs et les auditrices, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'Allemagne. C'était une espèce de conglomérat de petits royaumes, comme ça. Chacun avait un peu son petit royaume à droite à gauche. Donc là, il y avait le royaume des Burgondes, où Sigismond est devenu roi de façon tout à fait normale, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, plein de petits royaumes, comme vous le dites, mon cher Guillaume. Les Burgondes sont un peuple plutôt pacifique. Dans cette ancienne Allemagne, c'est le peuple sympa du coin. On dit d'ailleurs il est bon d'avoir un ami burgonde à cette époque-là.
Il est bon d'être burgonde,
il est bon d'avoir un ami burgonde. Le peuple sympa, on fait du commerce avec eux, pas trop de guerre, ils sont plutôt pacifiques comme je le disais. Voilà.
C'est un peuple très, très sympathique, mais et qui a sa sympathie, qui tient à des coutumes. Ils ont énormément de coutumes, alors certaines qui nous paraissent étranges avec le prisme de l'histoire, mais pourquoi pas. Voilà, c'est un système de coutumes et de règles très, très élaboré, très développé, que tous les Burgonds connaissent et auxquels ils se tiennent, qui paraît parfaitement normal pour eux.
Oui, si je peux en citer une.
Bien sûr.
Le fait de, quand on croise un voisin, pour lui montrer qu'on a du respect pour lui, on échange nos chaussures avec lui.
Donc voilà, c'est tout un pan de coutume, mais qui est très en lien avec la suite de l'histoire, hein, qu'on va vous raconter.
Après, faut savoir que Sigismond naît donc dans cette région d'Allemagne de l'époque, vraiment tourné essentiellement vers l'agriculture. C'était un peuple qui était vachement, pardonnez-moi, mais branché dans les céréales, donc dans la fabrication de bière, dans le houblon, le malt, tout ça. Donc il vient aussi d'une famille qui a un passif avec ça. Voilà, faut pas le cacher. Déjà, notamment à l'époque, il y a quelque chose avec l'alcool. Il naît donc effectivement, il hérite de ce pouvoir royal qui lui et puis cette éducation depuis sa plus tendre enfance. Mais il baigne aussi dans l'alcool.
Évidemment, vous le dites, on va pas se le cacher non plus longtemps. Un peuple sympathique. Essentiellement parce qu'il...
Festif.
Voilà, c'est très en lien tout ça. Il est bon d'être burgonde, il est bon d'avoir un ami burgonde. On trinque avec les burgondes.
On trinque avec les burgondes. Mais d'ailleurs, c'est encore une de leurs coutumes. Hein. Il est nécessaire, mais même obligatoire, de boire un litre de boisson alcoolisée par jour par individu âgé de plus de 8 ans. Donc,
c'est la règle.
C'est la règle et il peut y avoir des punitions le cas échéant parce que les Burgondes c'est des coutumes mais c'est aussi des règles et les manquements aux règles sont sanctionnés.
Oui. D'ailleurs, fait intéressant, le premier test alcoolémique de l'histoire a été créé par le peuple Burgonde pour pouvoir contrôler cette règle, cette loi.
On soufflait dans des rats Et on voyait si le rat était alcoolisé derrière et s'il arrivait à marcher droit ou pas.
Ouais, simplement. Il y a aussi des jeux qui nous sont venus. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Il y avait cette comptine qui disait Burgon, saute par-dessus le mouton. Et ainsi est venu donc, le jeu du saute-mouton voilà, qui nous est venu plus tard. C'est étonnant.
Ouais, c'est vrai que c'est des coutumes, voilà, donc, comme je le disais, hein, qui, avec le prisme de l'histoire, peuvent paraître étonnantes, mais à l'époque, c'était le pic en termes de société.
Le pic en termes de société. Est-ce que les peuples d'alentour se rendaient régulièrement chez leurs voisins burgondes, soit pour faire la fête, soit au moins pour passer du bon temps avec ces gens qui avaient l'air fort sympathiques?
Oui, mais ils ne pouvaient pas rester longtemps. Le peuple burgon était entraîné à la fête. Les peuples qui venaient chez eux pour passer du bon temps, ils étaient contrôlés comme les autres. Hein, ils devaient souffler dans les rats. C'est dur de tenir plus d'une semaine. Je vous mets au défi, hein, Guillaume, de tenir plus d'une semaine alcoolisé.
Et puis, une semaine, il fallait faire des allers-retours avec sa région d'origine parce qu'il est interdit pour un burgon d'accueillir un étranger chez lui plus de 2 jours de suite.
Ah oui, c'est vrai.
Une de leurs coutumes.
Oui, donc beaucoup de coutumes qui contraignent pas mal en fait, les interactions avec les peuples alentours et même les interactions en interne. Mais j'ai l'impression que ça se passait plutôt bien.
Oui, oui.
Oui, bon, il fallait trouver un voisin qui avait la même taille de chaussures que vous, parce que sinon ça crée des complications, mais à part ça, c'est vrai que ça se passait plutôt bien chez eux. Les sanctions étaient peut-être un petit peu sévères parfois, et on va y revenir, parce que c'est très lié à l'histoire de Sigismond. Mais oui, si vous couchiez trop tard, si on vous trouvait dehors passé le couvre-feu,
On
vous coupait une jambe. Ou on vous couvrait le feu. En fait, ça vient de la couvre-feu. Vous aviez le choix, soit vous faisiez couper la jambe, soit vous vous faisiez couvrir le feu. Donc ça veut dire que pendant l'hiver, vous ne pouviez allumer de feu chez vous. On vous le couvrait si jamais vous allumiez un feu. Et donc vous aviez très froid. Donc les gens préféraient en général choisir la jambe.
Ouais, un peuple très dur. C'était assez étonnant, du coup, le fait de couper des jambes aussi de cette manière. Il y avait donc toute une sonorité hein, typique de ce village qui avait été retranscrit là, dans une musique de Ravel aussi, justement, où on entend un plic-ploc typique des jambes de bois qu'on entendait dans le village de l'époque. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, hein, ça s'appelle Marche de la jambe de bois de Ravel.
Beaucoup, beaucoup de Burgondes qui avaient une jambe de bois.
Bah, les Burgondes d'Avignon oubliaient souvent le couvre-feu.
Tout à fait.
Mais très bien accepté par la population de l'époque. Ça, c'était, par contre, on comprenait et on acceptait les coutumes. Et je pense que ça participait au fait que le peuple était sympathique et heureux parce que bah, leurs règles étaient peut-être, voilà, encore une fois, par le prisme des autres cultures, par le prisme du temps, par le prisme de l'histoire, ça peut paraître étrange, mais pour eux, c'était parfaitement un système parfaitement normal et très fonctionnel.
Est-ce qu'on peut citer comme ça les coutumes les plus surprenantes peut-être et celles qu'on retrouve malgré nous, enfin encore aujourd'hui?
Les pantalons.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de pantalons.
Premier peuple de l'histoire à porter des pantalons.
Oui, avant on portait les kilts, des robes longues ou alors des pagnes, mais peu de pantalons avant les burgondes. Donc,
pourtant, on se dit avec une jambe de bois, c'est pas forcément la chose la plus pratique.
Alors à l'époque, c'était des chausses. Hein. On mettait un bas, donc des brais, et on venait. Les pantalons étaient. On avait une manche pour chaque jambe qui était détachable. Il y avait avec un petit lacet, on nouait la première manche de la jambe sur ses brais, et la deuxième. Donc si on était devenu on avait une jambe de bois, voire même, on était devenu Kudjat avec de la récidive. On pouvait moduler son pantalon.
Très bien. Alors, avant de continuer et de revenir plus en détail sur Saint-Sigismond, on fait une petite pause musicale.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Un seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Here's my station. And if you say just one word, I stay with you. Here's my station.
patience comme certitude, collier à trois fils, fil, fil, lié à trois fils, fil, fil. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Tortinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station.
And the Queen, Saint-Claude, et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. Alors juste avant de nous quitter, on parlait un peu des coutumes hein, de ce peuple des Burgondes. C'est maintenant l'heure de revenir vraiment sur Saint-Sigismond, qui n'était pas saint tout de suite. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de son schéma familial pour mettre un peu les pendules à l'heure et expliquer qui l'entoure quand il est roi.
Donc Sigismond devient roi relativement jeune, à l'âge de 27 ans. Il a bien sûr épousé sa femme aussi très très jeune, Madeleine de la Comté.
Madeleine de la Comté.
Qui vient de Franche-Comté, une reine française, une alliance stratégique avec la Bavière. Et ensemble, ils ont leur premier enfant, Anton, et c'est très lié au drame.
C'est très lié au drame. Enfant unique ? Anton, il n'arrive pas à avoir d'autres enfants, Madeleine de la Comté et Saint-Sigismond. Sigismond, saint, bien saint de manière canonique, hein, évidemment.
C'est ça, après son martyr, qu'on abordera plus tard.
Donc Sigismond et Madeleine de la Comté, il n'arrive pas à avoir d'autres enfants, et donc Anton est un enfant unique, plutôt turbulent. Il n'aime pas faire ses devoirs. Ce n'est pas un enfant qui c'est un enfant qui couvert de boue, hein, si je puis dire.
Il n'aime pas les cérémonies de la cour, non. Le fait les protocoles de bienséance, tout ça. Un enfant en même temps, il était jeune. Hein,
Et enfant unique, ça ouais. Beaucoup d'espoir placé dans
beaucoup de pression aussi peut-être.
Pression, ouais.
Et donc arrive le rite de passage à l'âge adulte des Burgondes.
Et donc là arrive sans doute le tournant de cette histoire, en tout cas le tournant pour notre Sigismond. Le passage à l'âge, la cérémonie de passage à l'âge adulte des Burgondes est très simple. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une course de sauts de haies aujourd'hui, à savoir que les haies étaient remplacées par des animaux, notamment des moutons qui pullulaient à l'époque dans les champs. Tous les enfants âgés de 5 ans devaient arriver sur le champ et sauter de moutons au-dessus des moutons, les uns après les autres.
5 ans, est-ce que c'est pas un peu tôt pour un passage
C'est l'âge de la majorité.
C'est l'âge de la majorité là-bas.
Quand on est Burgonde, l'âge où, après cet âge-là, à partir de 6 ans, tous les enfants doivent être alcoolisés.
Les enfants peuvent voter, conduire des calèches.
Voilà, tout à fait.
Voilà, pour eux, c'était tout à fait logique, lambda. Donc arrive cette cérémonie avec Anton, qui était aux côtés, donc il faut le savoir, hein, de 47 autres enfants. Il est arrivé dernier. dernier, il n'a pas passé le premier mouton, qui est quand même le plus simple, qui est même un agneau en fait. Enfin, il n'a pas réussi à sauter par-dessus sous les yeux donc, de ses parents qui étaient rois et reines, hein, rappelons-le.
Il y a des animaux bien plus hauts qu'ensuite, hein, parce que effectivement, on saute d'abord au-dessus d'un agneau, mais après, les animaux vont de plus en plus grands. On termine par sauter par-dessus des éléphants certaines années, si on en a. Et donc non, Anton passe les 20 minutes que dure l'épreuve à se faire lécher le visage par un agneau sous l'œil médusé de ses parents.
Et ce n'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'a pas envie.
Il n'a pas envie.
Non, bien sûr. Il est ce qui choque cette population burgonde, hein, donc dont on a parlé, qui aime ses règles, qui est prêt à se faire couper une jambe de bon cœur si leur attitude. Cet enfant un peu sauvage, le peuple en vient à se dire que c'est la faute de Madeleine de la Comté, qu'en Franche-Comté il n'aime pas beaucoup suivre les règles, et que cet enfant est amené d'ailleurs pour une alliance stratégique, comme vous le disiez Julien, apporte beaucoup de soucis et d'opprobes.
Ouais, le peuple était très en colère vis-à-vis de, voilà, de, il qualifiait ça d'échec, donc retentit dans le village à l'aide de leurs jambes de bois, voilà, qui martelaient le sol. Auschfall, échec, échec. Voilà le peuple qui criait donc l'échec de l'avènement de cet enfant, quoi.
Mais alors Madeleine de la Franche-Comté, Madeleine de la Comté fait appel à une règle burgonde pour éviter d'être elle-même mise en porte-à-faux. C'est le droit à la deuxième chance. C'est-à-dire que si on a un premier enfant qui échoue, qui n'est pas obéissant, on peut le tuer et on en faire un deuxième, et c'est la deuxième chance, le droit à une deuxième chance du prince. Et du coup, elle demande à son mari de faire exercer ce droit de la deuxième chance.
Un droit un peu particulier dans le sens où on peut aller prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. On tue son enfant et on va en chercher un autre.
Elle avait jeté son dévolu d'ailleurs sur Wilhelm Malan, qui était l'enfant qui avait fini premier cette année-là.
Fils d'un potier.
Ouais. Qui avait réussi à sauter par-dessus un éléphant. Ouais. Il y avait un éléphant cette année-là. À
l'époque. C'est une règle qui ne prévaut qu'au roi et à la monarchie burgonde.
Bien sûr. Ah oui, c'est un privilège.
C'est aussi une façon de sélectionner le meilleur potentiel roi.
C'est
si
le meilleur héritier. Ouais, tout à fait.
Il y a un héritier qui fait défaut.
Tout à fait.
Donc voilà, le droit à la seconde chance, mais bon, bah, le prix à payer, c'est de tuer son enfant. Et donc, Madeleine demande à Sigismond de tuer son fils.
Voilà, et c'est là où ça prend un tournant vraiment dans la vie du roi, où bah, on connaît la fin, il finit seul dans un monastère, puis décapité, etc. Donc on se doute bien que ça s'est mal passé, l'assassinat de son fils.
C'était, une catastrophe pour Sigismond. C'est cette scène dont les écrits nous rappellent qu'ils étaient tous les deux avec Madeleine au sein de leur demeure, avec Madeleine qui lui dit tue Anton, il faut tuer Anton, et Sigismond qui était complètement abasourdi, qui quitte tout de suite le village, qui quitte le royaume pour s'en aller donc jusqu'à Orléans, qui fuit pour prendre de rejoindre même le rang des saints, rejoindre un monastère, qui cherche à fuir ses propres responsabilités face à la mort de son propre fils. Donc ça c'est un tableau destructif du Caravage d'ailleurs, qui montre cette scène dans la pénombre avec Madeleine qui tend le couteau à Sigismond pour dire tiens, tue notre fils.
Et on voit en premier plan, donc ça c'est l'arrière-plan, Madeleine qui tend le couteau à Sigismond, et en premier plan le choix de Sigismond représenté par les deux enfants possibles, un enfant modèle habillé en blanc avec une paire d'ailes et un petit livre qui a l'air très studieux, et un enfant qui est en train de se prendre la tête avec un cochon dans la boue. Donc voilà, c'est le choix de Sigismond du Caravage.
Superbe tableau.
Évidemment, mettez-vous à sa place. Hein. On peut même pas s'imaginer l'horreur de ce choix. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment un choix? Évidemment que Sigismond ne voulait pas tuer son enfant. C'est le premier roi, en tout cas c'est la reine qui invoque cette règle, cette loi, mais c'est le premier roi qui est confronté, parce que personne n'avait jamais eu besoin d'utiliser une loi de la sorte, aussi folle soit-elle. Donc Sigismond part en exil, il rejoint d'abord la Franche-Comté, parce qu'il pense avoir des alliés là-bas, il est très mal reçu.
Oui.
Il est très très mal reçu.
Bah, faut dire que les coutumes burgondes transfèrent mal en Franche-Comté. Hein.
Il a essayé d'échanger ses chaussures avec le duc de Franche-Comté.
Le duc refusant, il lui a jeté ses souliers au visage. Le duc l'a mal pris, il l'a chassé.
Ce qui n'est même pas vraiment quelque chose d'agressif chez les Burgondes. Jeter les chaussures au visage, c'est accepter que la pointure ne fonctionne pas peut-être entre les deux et que, ok, nous ne serons peut-être pas très amis.
Et tu ne veux pas me donner tes chaussures, mais moi je te donne les tiennes. C'est presque un signe de respect en fait. C'est je te donne tes chaussures malgré que tu ne me donnes pas les tiennes.
Regarde le chemin que j'ai parcouru avec. Voilà, c'est tout un truc de. Je renvoie le respect de mon parcours à tes propres.
Non, c'est assez beau. C'est assez fort.
Mais évidemment, ça ne plaît pas à Philippe de Franche-Comté, duc de l'époque, qui envoie donc Sigismond dans un monastère près de la ville d'Orléans. Où il va finir ses jours.
Alors justement, cette arrivée au monastère, on le retrouve dans un film dont on va écouter un extrait.
Excusez-moi.
Oui ?
Vous êtes un frère du monastère ?
Bien sûr, je suis en train de contempler ma Bible.
Abbaye.
Bienvenue.
Pardon, c'est dans ma culture, on dit plusieurs fois abbaye lorsqu'on s'adresse à... une personne religieuse.
Vous n'avez pas besoin de faire tout ça ici, ne vous en faites pas, vous êtes bienvenue dans notre monastère, dans cette superbe ville d'Orléans.
Merci de m'accueillir.
Père Jacques, je vous présente Sigismond. J'ai l'impression que vous avez déjà pu faire connaissance.
J'ai eu vent de son arrivée au sein de notre monastère, merci frère Philippe.
Ne faites pas de formalité de ses coutumes un petit peu étranges, il nous vient de Burgondie.
Ah, d'accord, ça je l'ignorais. Vous venez de Burgondie, donc.
Tout à fait, en Bavière.
Ah oui, je
j'étais
vois très
roi
bien.
Là-bas.
J'aime vous très heureux de... Vous étiez roi ?
Je renonce à mon statut. Je veux me donner aux ordres.
Vous ne me l'aviez pas dit, Sigismond, que vous étiez roi ?
J'ai préféré le cacher. Écoutez, tenez, prenez cette carotte et giflez-moi avec. Je vous ai menti.
Excusez-moi, Sigismond, mais...
Vous venez d'arracher cette carotte de notre potager ?
Oui, lorsque... Oh, pardon, c'est encore une spécificité de ma... De mon ethnie, c'est que on doit prendre une carotte fraîchement sortie du sol pour se faire gifler avec lorsque l'on ment.
Pourquoi vous me tendez vos chaussures ?
Ben, pour un signe de salut, bien entendu.
Ah. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore avec des chaussures ?
Ben, c'est pour pouvoir vous saluer lorsque je croise quelqu'un.
Un frère Sigismond ici, il ne faut plus de chaussures.
Je suis perdu.
Des frères Sigismond, il va falloir vous mettre aux ordres maintenant et accepter nos coutumes.
Écoutez, vous venez d'arracher cette carotte, alors s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre ce seau...
Je la replante.
Et allez la replanter bien et sûr, la réarroser avec l'eau du puits du village.
Excusez-moi.
Frère Sigismond.
Oui.
Dans quelle tâche voulez-vous le plus vous illustrer ? Il y a quelque chose parmi notre monastère que vous voudriez ou vous pourriez aider, par exemple, une
bien
petite
sûr,
compétence
je
que vous
avez. Je suis remarquable en fabrication de bière.
Très bien. Très bien.
Oh, excusez-moi, j'étais dans la chambre plus tôt et j'ai voulu faire mon lit, mais je n'ai pas trouvé de poulet.
Pardon ?
Non, pardon, c'est encore...
Je vais aller faire un tour dans sa chambre.
Merci, frère Jacques.
Voilà, donc là, on voit le roi Sigismond qui a vraiment du mal à s'intégrer avec toutes les coutumes qui sont vraiment innées chez lui et qui ne fait que ressasser, enfin, qu'il utilise pour son quotidien au milieu des frères du monastère et ça se passe moyennement bien.
Bah alors, c'est vrai que c'est rigolo parce que ce film est une comédie, hein, oui. Le chemin de Sigismond. C'est une comédie, mais qui reprend des vraies coutumes burgondes, hein, le fait de se faire gifler avec une carotte fraîchement sortie de terre lorsque l'on ment à quelqu'un et que la personne le découvre.
Bon, le poulet pour faire le lit, c'est inventé.
Les
carottes, oui. Hein, c'est pour ça qu'on dit manger des carottes, ça rend aimable. Hein, il y avait quelque chose de pour que ouais, voilà, se bafouer. Enfin voilà, renier le mensonge, manger des carottes. Enfin, voilà.
J'adore ce film, moi. Avec Jacques Villeray dans le rôle de Sigismond.
Oui, il est super. Ouais, il est super. Ah, oui, il me fait beaucoup rire.
Mais par contre, il retrace de manière humoristique, oui, le chemin de Sigismond. Par contre, il faut quand même savoir que suite à cette arrivée dans le monastère, c'est là aussi où ça signe l'arrivée vers la fin de Sigismond, cependant.
Oui, néanmoins, il devient, on le voit dans le film, il devient ami avec les deux frères qui dirigent le monastère, frère Jacques et frère Jean. Il finit par accepter leurs coutumes. Il prend une place très importante dans la fabrication des bières artisanales fabriquées par le monastère.
Oui, il s'illustrera là-dedans.
Il s'illustrera là-dedans. Et d'ailleurs, c'est pour cette fabrication de bière que Sigismond a été canonifié.
C'est sûr.
Ça, et aussi le fait que c'était un ancien roi qui vient et qui demande le pardon. Ouais. Et, qui, et du coup, suite à ça, les frères du monastère étaient un peu subjugués du fait qu'un roi vienne ici devenir moine. Donc, font même venir le pape directement.
Mais ce sera le saint patron des brasseurs, mais c'est aussi un symbole de la rédemption et du fait de ne pas avoir honte de renier son statut pour repartir vers quelque chose de plus noble.
Très bien. Alors, malgré tout, on sait que ça marque un peu la fin de sa vie, cette arrivée au monastère. Ça a l'air de bien se passer avec les frères du monastère, mais on sait qu'il va quand même se faire assassiner. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il finit dans cet état-là ?
Un Burgonde reste un Burgonde.
Oui.
C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a vécu toute sa vie entouré de coutumes, il est difficile de toutes les renier. Et alors ça se passera lors d'une visite du roi de France dans l'abbaye. Le roi de France de l'époque, Charles Ier, se rend à l'abbaye car il a entendu dire qu'on y brassait une excellente bière et donc oui. il voulait la goûter par lui-même. Il dit bonjour à chacun des moines et il finit par arriver devant Sigismond et à lui dire bonjour. Et là,
Ram, nouvelle coutume burgonde. Qui prend le dessus, qui prend le pas.
Que tout le monde avait oublié, qu'il n'avait jamais rencontré un autre roi, donc forcément, c'est pas une coutume qu'on peut faire, qu'il peut faire habituellement.
Sigismond voit le roi, Charles Ier, couronne sur la tête, s'approche de lui, le gifle à la tempe. Le roi, abasourdi, réclame immédiatement, en vengeance, les gardes entourent Sigismond, l'emmènent sur la place publique d'Orléans, tête par-dessus le puits, et le décapite net sur la place publique.
Et alors, sans aucune forme de procès.
Aucune.
Ah non. C'était un
crime de lèse-majesté. Gifler un roi.
Mais alors, malheureusement,
qu'est-ce que ça voulait dire, justement, pour le peuple burgonde, cette gifle?
C'est un symbole de respect.
La marque ultime.
La marque ultime de respect. C'est-à-dire que et c'est pour les personnes couronnées. Donc, que ce soit un roi ou d'autres formes de d'autorité dans un pays, une personne couronnée doit être saluée par une frappe d'une extrême violence sur la tempe.
Là, pour montrer que la couronne est bien vouée à être ici, sur cette tête.
Voilà,
c'est solidement ancrée sur la tête.
Solidement ancrée sur la tête. C'est pour lui dire,
je
reconnais
l'existence de Dieu.
Mais oui, Dieu, c'est une forme de miracle.
Cette couronne tient grâce à un pouvoir divin.
En frappant de toutes mes forces sur ta tête, je n'arriverai pas à faire tomber cette couronne. Et c'est la portée du respect que je te porte.
En frappant de toutes mes forces sur ta tête, je n'arriverai pas à faire tomber cette couronne. Ce sera le mot de la fin. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Saint Sigismond. Vous retrouvez l'émission sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau pan de l'Histoire, l'Histoire avec un grand I.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.